Bonsoir, rentrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'exploitation animale. À l'ordre du jour ce soir, où commence l'exploitation animale? La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé il y a une semaine la fin prochaine des spectacles de fauves, de dauphins ou d'orques en captivité, devançant certaines des demandes d'un référendum d'initiative partagée ainsi qu'une proposition de loi portée par d'anciens marcheurs sur les conditions de vie des animaux. Un faisceau d'initiatives qui montre une évolution des opinions sur la question de l'exploitation animale, même si bien des défenseurs de ces animaux considèrent que ces annonces gouvernementales ne vont pas assez loin en ne s'attaquant ni à l'élevage en cage, ni à la chasse à courre. Nous allons en discuter avec nos trois invités, avec Camille Brunel. Bonsoir Camille Brunel.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, journaliste et militant animaliste et vous avez publié Les Métamorphoses chez Alma cette année et Après nous les animaux chez Casterman. C'était également cette année à la rentrée de septembre. Avec nous également Jocelyne Porcher. Bonsoir Jocelyne Porcher.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, zootechnicienne et directrice de recherche à l'INRAE. Vous êtes au laboratoire Animals Lab et vous avez publié, entre autres, Vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle, avec une préface d'Alain Caillé. À la découverte, c'était en 2014. Et puis, avec nous également, Émilie Dardenne, maîtresse de conférences en anglais à l'université de Rennes 2, où vous êtes responsable pédagogique du diplôme d'université Animaux et Société. Bonsoir, Émilie Dardenne.
Bonsoir.
Et vous publiez donc à cette rentrée également, cette rentrée en 2020, presse aux presses universitaires de France, Introduction aux études animales.
Notre époque a changé. Elle est celle d'un rapport nouveau à l'animal sauvage. Bien plus qu'une menace ou qu'une proie, il est désormais avant tout, et c'est ma conviction profonde, un être à préserver et à respecter dans son intégrité. Cette évolution des perceptions, c'est la marque d'une civilisation mature. Aujourd'hui, je vous annonce la fin progressive de la présence de faune sauvage dans les cirques itinérants, la fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés à leurs besoins de mammifères marins, la fin des élevages de visons pour leur fourrure en France et le soutien aux actions collectives des parcs zoologiques pour l'amélioration des conditions de détention des animaux.
Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agissait de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Le 29 septembre dernier, c'était donc il y a une semaine, Émilie Dardenne, c'est la fin de quoi, ce que annonce la ministre Barbara Pompili, vous qui êtes, vous travaillez sur cette question de l'histoire de l'exploitation animale en particulier?
Je pense que les annonces de Barbara Pompili, elles entament l'interdiction de certaines pratiques parmi les plus cruelles, par notamment la fin de l'élevage de visons sous 5 ans. Elles sont intéressantes symboliquement, mais elles restent à être assorties de textes normatifs et de textes de législation.
Il y a justement une proposition de loi qui va être portée jeudi devant l'Assemblée nationale, qui n'est pas portée par le groupe majoritaire, par LREM, mais par d'anciens de ce groupe majoritaire. Est-ce que ça participe justement de ce que vous escomptez ou de ce que vous notez en termes de droit, Émilie Dardenne?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la proposition de loi de Cédric Villani reprend une partie des mesures des annonces annoncées par Barbara Pompili. Mais cette proposition de loi, elle va aussi plus loin puisqu'elle comporte des évolutions concernant l'élevage et notamment l'élevage en cage pour les poules pondeuses. Et puis une transition hors de l'élevage intensif qui est une demande populaire importante aujourd'hui. Hein, plus de 80% des Françaises et des Français appellent de leur vœu une sortie de l'élevage intensif. Donc la proposition de loi portée notamment par Cédric Villani, elle propose ça, elle propose l'obligation d'accès au plein air pour tous les animaux de rente d'ici à 2040.
Camille Brunel, à la fois cette proposition de loi, mais également ce référendum d'initiative partagée qui d'ailleurs a rassemblé combien de signatures pour l'instant ?
Pour l'instant, ils sont entre 600 000 et 700 000, je pense.
Il a été lancé donc en particulier par le journaliste Hugo Clément. Mmh. Ce référendum, ça vous fait réfléchir à quoi ? Ça vous fait penser que maintenant, il y a cette fin programmée de certaines cruautés contre les animaux et peut-être plus qui est en chemin. Qu'est-ce qui se passe ?
Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis très honoré de partager le micro avec Madame Porcher, puisque mes convictions animalistes sont vraiment forgées en réaction à ses discours sur les animaux et sur l'élevage en particulier. Et si elle n'existait pas, je mangerais encore de la viande aujourd'hui, quoi, quasiment. Et je pense que ce qui se joue ici, en fait, vous pouvez pas trouver deux personnes plus radicalement opposées dans leur.
On va lui donner la parole dans un instant.
Sur n'importe quel sujet, je pense, puisque je considère et je j'y crois dur comme fer que les animaux sont des personnes, ce qui me rend absolument impossible l'idée de les manger. On exploite encore de nos jours des personnes humaines, et c'est injuste, et il faut lutter contre ça, mais on n'en mange plus aucune. Et la différence fondamentale, elle est là. Dans les années 70, vous savez, Françoise Dolto a dû apprendre aux gens que les enfants étaient des personnes. Et on en est là aujourd'hui. On est en train de dire que les animaux sont des personnes. Et c'est ce qui se joue avec le RIP, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont admis ça et qui donc considèrent
le référendum d'initiative partagée.
Et donc à partir du moment où les animaux sont des personnes, les enfermer dans des bassins, leur donner des coups de fouet pour qu'ils sautent dans des anneaux en feu ou les électrocuter pour prendre leur peau est absolument impensable. Et donc à partir de là, toutes les pratiques les plus cruelles coulent de source. En fait.
Jocelyne Porcher, puisque notre autre invitée vient de vous interpeller, quelle est votre position, vous qui donc êtes à Animals Lab et qui travaillez à l'INRAE, quelle est votre position sur cette question de l'exploitation animale qui est au cœur de notre émission d'aujourd'hui ?
Je crois que je vais revenir sur un point central de mes recherches depuis très longtemps, qui est de faire une distinction entre élever les animaux et les produire. Et donc entre l'élevage et les productions animales nées avec le capitalisme industriel au 19e siècle. Donc pour moi c'est quelque chose.
Vous faites une vraie différence à partir du 19e siècle, à partir du moment où en particulier dans les questions de sélection animale etc, on est passé à un autre stade de l'exploitation des animaux, c'est cela ?
C'est-à-dire c'est même pas une question de sélection, c'est une question de statut des animaux à partir de la naissance de la zootechnie, du capitalisme industriel dans lequel la zootechnie s'inscrit, les animaux deviennent des objets industriels et c'est ça le fond du problème, comment cette conceptualisation de l'animal comme objet industriel, c'est ce qu'on voit en acte, c'est ce qui a été mis en acte dans les années 60 en France et qu'on voit aujourd'hui dans une porcherie industrielle, dans un système de volaille industrielle, c'est une réduction de l'animal statut d'objet industriel. Souffrir les animaux. Voilà, c'est l'exploitation.
Ça veut donc dire que justement cette exploitation animale pour vous, c'est en particulier cette exploitation en cage des animaux. Donc vous seriez susceptible d'être d'accord avec le référendum sur ce point-là, par exemple, l'interdiction progressive de l'élevage en cage, par exemple.
Oui. Ça fait plus de 25 ans que je décrypte et déconstruis l'histoire des systèmes industriels, que je montre qu'ils sont une violence envers les animaux. Enfin, je renvoie à tout ce que j'ai écrit contre ces systèmes industriels. Mais pour ce qui concerne ce RIP, non, je ne le signerai pas. Et je peux expliquer en deux secondes les raisons. C'est d'une part que ce RIP a été imaginé non pas par des animalistes Hugo Clément ou autres, mais par...
Et des milliardaires animalistes, peu importe.
Ça, c'est pas moi qui parle. C'est Camille Brunel.
Si je peux me permettre.
Oui, j'aimerais bien qu'il me coupe pas la parole.
Excusez-moi.
Okay. Oui. Ouais. Donc voilà. Donc ce RIP, il s'inscrit pas. En fait, ce RIP, il a pas grand-chose à voir avec les animaux. Ce qui concerne, c'est des enjeux économiques autour de notre alimentation et de la place des animaux.
Ce que vous voulez dire quand vous parlez de ces milliardaires, c'est que vous imaginez effectivement que la viande de synthèse, tout ce qui pourrait être développé pour pouvoir remplacer la viande que nous consommons ou que nous ne consommons pas selon nos pratiques alimentaires, est derrière. Donc c'est la continuation d'une certaine façon ou le renouvellement de l'exploitation capitaliste animaliste que vous décriviez tout à l'heure. C'est cela, Jocelyne
Porcher.
Je vais redonner la parole tout de suite à vos autres interlocuteurs.
C'est ce que j'ai décrit dans Cause animale, cause du capital, c'est-à-dire le fait que cette agriculture cellulaire, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est la suite de la zootechnie du 19e siècle. Au 19e siècle, la zootechnie a inventé l'idée de produire de la matière animale à partir des animaux, donc en dépossédant en fait les animaux du travail et de leur existence. Et aujourd'hui, le pas de plus, voilà, au 21e siècle, avec les techniques qui le rendent possible, c'est la production de matière animale sans les animaux, dans l'incubateur. C'est-à-dire, l'incubateur remplace la vache. Donc voilà. Et derrière ce RIP, c'est ça qu'il y a. Parce qu'en fait, l'alternative qui est, enfin, ce que je souligne moi par rapport à ce RIP, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Détruire le système industriel. Mais moi, je suis d'accord. Ça fait 25 ans que je me bats pour ça. Par contre, par quoi on le remplace? Et là, il y a rien. Il y a l'élevage plein air en 2040, mais en 2040, les linéaires seront pleins d'agriculture cellulaire. Par contre, il pourrait y avoir un article sur l'élevage paysan. Là, je serais d'accord. Je signerais ce RIP s'il y avait un article de plus pour dire on détruit les systèmes industriels et on remplace tout ça par de l'élevage paysan. Mais là, je souligne que cet article n'y est pas.
Oui, voilà. Camille Brunel.
Non, je tiens à préciser que plus de 600 000 personnes qui ont co-signé le RIP n'étaient pas toutes milliardaires du tout. Et les gens qui l'ont créé sont des animalistes avant tout. Qu'ils soient riches, c'est un détail. Je veux dire, les gens qui ont écrit de l'esprit des lois et de l'inégalité de l'origine de l'inégalité parmi les hommes et compagnie sous les Lumières étaient aussi l'équivalent des milliardaires à l'époque. Ça les empêchait pas d'être totalement légitimes. Ensuite, le discours sur la peur de poursuivre la zootechnie jusqu'à l'absurde et d'imaginer des steaks de synthèse. Bon, l'agriculture cellulaire, c'est effectivement quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est encore très très loin. Moi, ce midi, j'ai mangé à Végébol à côté de la gare de l'Est. Je peux vous promettre qu'il n'y avait pas Bill Gates dans la cuisine. Et j'ai mangé du blé, le produit d'agriculteurs français. Et pour ce qui est de mettre quelque chose à la place de l'élevage industriel, je pense que tout le monde est d'accord, enfin a fortiori les animalistes, qu'ils soient milliardaires ou RMistes, tout le monde est d'accord pour dire qu'on veut pas voir les animaux disparaître et qu'on veut garder une relation avec eux. Ce qu'on veut voir disparaître en revanche, c'est les abattoirs, ça c'est clair.
Oui, Émilie Dardenne, ça s'inscrit dans une histoire longue justement de rapport entre animaux et êtres humains, hommes et animaux, qui commence, on l'a évoqué à l'instant même à propos du 18e siècle, qui commence plus ou moins au 18e siècle, qui se perturbe au 19e siècle. Vous avez travaillé en tant que spécialiste d'anglais, donc de philosophie anglophone, vous avez travaillé sur ceux qui sont considérés comme les philosophes anglophones qui sont à l'origine, plus ou moins, de ce mouvement animaliste, Peter Singer et Tom Regan, donc avec l'un la libération animale et l'autre les droits des animaux. Comment justement se fait le joint entre cette pensée-là, donc anglo-saxonne, et dont on est en train de discuter aujourd'hui en France, au début des années 2020, autour de la question de l'exploitation animale?
Ben, on peut même remonter bien avant Peter Singer et Tom Regan pour dire que l'éthique animale, elle n'a pas attendu l'avènement de la viande de culture pour se développer et qu'elle remonte même à la Grèce antique, plus tard que Porphyre, Pythagore avaient déjà des arguments en faveur d'un nouveau rapport aux animaux non humains. Et puis cette pensée d'éthique animale, elle a effectivement été considérablement renouvelée dans les années 70 et 80 par Peter Singer et Tom Regan. Ils ne sont pas bien sûr les seuls, mais ils sont des figures tutélaires de l'éthique animale contemporaine. Ils ont fourni un terreau à partir duquel se sont développées des idées autour de la libération animale, de l'antispécisme, des droits fondamentaux pour les animaux, et qui se sont ensuite beaucoup développés, mais qui ont aussi occasionné des critiques et des réactions, et qui ont contribué au développement d'un mouvement animaliste qui s'est beaucoup diversifié à la fin du XXe siècle, avec différentes branches, notamment une branche d'une part welfariste.
Alors il faut expliquer ce que c'est que le welfarisme, c'est la question du bien-être animal, c'est cela ?
C'est ça. Donc les welfaristes se préoccupent des conditions de vie des animaux et de leur bien-être.
C'est l'équivalent de Madame Porcher en fait.
Et de l'autre côté, il y a les abolitionnistes. Ouais. Je pense que c'est plutôt aux abolitionnistes que pense Madame Porcher, qui vise la fin de l'exploitation animale. Mais dans cette tradition, enfin dans ce mouvement abolitionniste, il y a aussi plusieurs courants Il y a un courant qui vise effectivement la fin de toute forme de relation avec les animaux de rente. Et il y a un courant qui vise une cohabitation avec les animaux en dehors de l'exploitation animale. Donc on peut très bien continuer de cohabiter avec avec les animaux. D'ailleurs, on a un exemple dans l'histoire récente avec le cheval. Quand les chevaux ont cessé d'être utilisés pour la traction, ils n'ont pas disparu des relations anthropozoologiques, ils ont continué. Un nouveau compagnonnage s'est développé autour
mais,
du cheval.
Mais tout de même, même si c'est très critiqué, on a continué à manger du cheval, même si ça n'est pas majoritaire.
Tout à fait, et c'est l'un des paradoxes de la situation actuelle autour de la condition animale. D'une part, un mouvement qui va vers une plus grande individualisation des animaux et une plus grande sensibilité à leur sort. Et d'autre part, la fonction utilitaire des relations anthropozoologiques, des relations entre les humains et les autres animaux qui continuent de primer. Et aujourd'hui, ce paradoxe, il arrive peut-être à un certain paroxysme qui s'exprime dans une demande populaire forte pour une réforme des relations anthropozoologiques, qui s'exprime dans des initiatives citoyennes. On parle du RIP, alors peut-être qu'on peut aussi préciser ce qu'est le RIP. Il ne concerne pas que l'élevage. Il y a plusieurs demandes. Il y a une sortie de l'élevage intensif, une demande de la fin de l'élevage en cage et de l'élevage en fourrure, mais il y a aussi la question de l'expérimentation animale. Il y a aussi la question de la fin de l'utilisation des animaux sauvages dans les spectacles et la fin de la chasse à courre. Donc il est bien plus large que la seule question de est-ce qu'on continue de manger les animaux ou pas, est-ce qu'on continue de les élever ou pas. Et d'ailleurs, ça n'est pas une demande de la fin de l'élevage.
D'ailleurs, on peut écouter à ce propos le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui a, je crois, fait auparavant des études d'ingénieur agricole à propos du référendum, justement, d'initiative partagée dont on parle sur les animaux, qui a été initié, entre autres, par le journaliste Hugo Clément.
L'élevage intensif n'a même pas de définition en France. Est-ce qu'on dit en même temps aux Français que si on arrête l'élevage aujourd'hui, ça coûte plus cher à la fin dans les commerces? Et enfin, est-ce qu'on dit aux Français que si on libère 40 millions de poules dans notre pays, il faudra bien les mettre quelque part? Au même moment, vous avez le coq Maurice, c'est-à-dire vous avez les voisins qui portent plainte parce que les poules font trop de bruit. Bah, je crois que ce bon sens paysan, il faut le mettre au centre de nos décisions.
Qu'est-ce que vous pensez justement de cette façon d'avancer le bon sens paysan par le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, Camille Brunel?
Je pense qu'il est gonflé de dire qu'on va libérer 40 millions de poules, quoi. Les poules, on les fabrique. C'est une façon de cacher en fait la réalité de l'élevage. C'est des animaux qu'on crée. Ils sont pas en train de se reproduire tout seuls. Et donc ils sont là parce qu'on veut qu'ils soient là. Si on veut qu'ils soient plus là, on va pas juste ouvrir les portes et les faire partir. Bon, on va envoyer la dernière fournée dans les KFC et les restaurants fins de Paris et du coin, mais ils vont pas disparaître. Et le bon sens paysan en 2020, ça n'a plus aucun sens. Le bon sens paysan,
il y a tout de même des paysans, des petits paysans, ça existe.
Mais ils sont devenus complètement marginaux aujourd'hui. Quand on dit paysan aujourd'hui, tout le monde imagine une vache dans un pré et quelqu'un avec un béret, un homme et sa femme avec le panier en osier. Enfin, ça date de 1900, quoi. La population mondiale a plus de quadruplé depuis le début du 20e.
Désolé, ça date pas de 1900.
Ça date des années 50.
Voilà.
Et 70, ça commence à...
Oui, bien sûr, d'accord. Mais d'ailleurs, on peut lire là-dessus Nature humaine, le très bon roman de Serge Joncourt qui vient de sortir.
Nature humaine ou Règne animal de Jean-Baptiste Delamo.
Ouais. Mais aussi, bien sûr, mais le Nature humaine vient de sortir. Ouais, effectivement, et raconte justement cette évolution
de
l'agriculture. Très brièvement, je vais donner la parole à Jocelyne Porcher.
Ah oui, bien sûr.
Jocelyne Porcher.
Oui.
Sur ce que disait à la fois à l'instant même Camille Brunel, mais également sur ce que disait le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
Mais comme je l'ai dit en démarrant l'émission, je fais une grande différence entre élever les animaux et les produire. Donc là, il n'y a pas une défense de l'agriculture ou de l'élevage comme ça global. Au contraire, même je pense que le terme élevage, il est par rapport à ce que je disais, il est utilisé abusivement pour désigner à la fois l'élevage, le fait d'élever les animaux, d'être dans un rapport de travail historique de production avec les animaux, et puis les productions animales, donc héritées du 19e siècle. Je pense que cette confusion, elle est faite à la fois par les défenseurs des systèmes industriels et par les défenseurs de la cause animale. Par exemple, le terme élevage intensif, ça ne veut rien dire. Le terme élevage industriel, ça ne veut rien dire. Il faudrait nommer les choses par leur nom. Alors bon, le terme élevage, comme il est justement utilisé comme terme générique depuis longtemps, il est difficilement...
Oui, on ne peut pas le supprimer de notre vocabulaire. Donc, voilà,
c'est... Non, mais par contre, le terme que j'utilise et qu'utilisent les paysans eux-mêmes maintenant souvent, c'est le terme d'élevage paysan, pour marquer une différence avec les systèmes industriels que moi j'appelle production animale, c'est-à-dire production de la matière animale. En élevage, on ne produit pas de la matière animale, on travaille avec les animaux, on produit des produits animaux, effectivement, de la viande, du lait, des œufs.
C'est ce que vous appelez une relation différente à la philosophie du travail, justement.
C'est une relation de travail. Pour moi, le cœur de nos relations aux animaux, c'est la question du travail. Et depuis les premières domestications, ce qu'on fait avec les animaux, c'est de travailler, de produire, de transformer le monde, comme disait Marx, avec les animaux. Ce qui leur donne, d'ailleurs, en pensant à Marx, une seconde nature. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont plus... les animaux domestiques, c'est des animaux qui sont dans les rapports sociaux complètement inclus. C'est pour ça que la condition animale, c'est la nôtre. Il n'y a pas de condition animale sortie de la condition humaine. Ils sont dans les rapports sociaux. Si on veut changer la vie des animaux, il faut changer leur vie au travail, leurs conditions de travail, les objectifs du travail. C'est le travail qui est le mot-clé. Et en changeant leur vie, on changera la nôtre. Moi, c'est mon espérance. Et c'est pour ça que c'est éminemment politique. C'est que changer les conditions de vie et de travail avec les animaux, c'est changer la nôtre. Et là, voilà, c'est tout le sens du travail qu'on fait à Animal Slam.
Vous écoutez donc France Culture, le temps du débat. Où commence l'exploitation animale avec Camille Brunel, Jocelyne Porcher qu'on vient d'entendre et Émilie Dardenne.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Un extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, l'extrait La Volière. Dans cette émission consacrée à l'exploitation animale, nous sommes avec Émilie Dardenne, avec Jocelyne Porcher et avec vous Camille Brunel.
Oui, j'ai beaucoup de mal à tirer du sens de ce que dit Madame Porcher quand elle dit que les éleveurs ne produisent pas des produits animaux à l'inverse de l'élevage intensif, mais que quand même ils produisent des produits animaux, ce qui est à peu près ce qu'elle a dit tout à l'heure, et qu'elle s'oppose à l'élevage industriel, mais ne veut pas signer l'interdiction des cages que propose le RIP. Et ce qui me perturbe dans cette histoire dans ces contradictions nombreuses dans son discours, c'est qu'au final le discours pro-paysan est en fait en quelque sorte l'idiot utile de l'élevage intensif tel qu'elle le dénonce.
Puisque... Et comme vous seriez l'idiot utile de la grande des milliardaires californiens qui veulent faire de la viande de synthèse.
Ou l'idiot inutile, je sais pas, mais toujours est-il que ce que je sais, c'est que quand il y a eu les débats à l'Assemblée nationale la semaine dernière, sur le mur, il y avait une photo de deux vaches dans un pré. Je blague pas, vous pouvez regarder les vidéos. C'est-à-dire que on était en train de parler d'animaux élevés en cage, des cochons, des lapins, qui sont la majorité des animaux, mais que l'image qu'il y avait dans la tête des députés à ce moment-là, c'était deux vaches heureuses dans un pré. Et vous voyez, c'est cette image de l'élevage paysan qui recouvre le reste et qui permet d'inciter les députés à s'opposer à l'interdiction de l'élevage en cage.
Cette querelle que l'on entend et que vous entendez aussi, Émilie Dardenne, entre Jocelyne Porcher et Camille Brunel, c'est une querelle qui est assez étrangement, politiquement, ne vient pas de lieux très différents. Voilà des gens qui apparemment sont l'un et l'autre à gauche, peut-être pas la même gauche, mais qui, sur le même sujet, sont très radicalement opposés, alors qu'a priori, politiquement, ils ne sont pas si éloignés. Est-ce que, justement, ça dit quelque chose de la construction de cette idée d'exploitation animale, d'éthique animale, de bien-être animal dont vous parliez tout à l'heure ?
Oui, on retrouve un certain paradoxe. Mais je voudrais, si vous me le permettez, revenir à la question de l'élevage intensif.
Oui.
Et à la définition de l'élevage intensif. Il y a une définition de l'élevage intensif. L'élevage intensif, c'est l'augmentation du rendement en augmentation la densité des animaux sur l'exploitation. Donc on est capable de le définir. Et on parle d'élevage intensif à partir de 400 vaches, de 750 cochons ou de 4, 40 000 poulets.
Et ça, c'est une définition légale ou une définition de bon sens entendu entre les uns et les autres, puisque je reprends le terme de Julien de Normandie.
Oh, c'est une définition qu'on peut trouver dans différents documents. Non, c'est pas c'est pas simplement une définition de bon sens. Hein. Les chiffres, ils sont disponibles. Et ce que je voulais aussi signaler sur, souligner sur la notion de travail animal, il me semble que l'un des grands absents des échanges sur ces questions qui, on le voit bien aujourd'hui, sont constamment dans l'actualité, c'est le point de vue des animaux. C'est ce qu'on fait dans les études animales et animal studies au sein desquelles je travaille. On essaye de s'approcher du point de vue des animaux.
Est-ce que c'est par exemple le travail d'Éric Baraté quand il tente de faire la biographie de certains animaux connus parce qu'ils ont été proches de personnalités qu'on a raconté leur vie, par exemple, c'est un peu le même travail?
C'est exactement ça. Le travail d'Éric Baraté, c'est un très bon exemple de ce qui se passe en Animal Studies. Et ce qu'il fait lui en histoire, c'est de croiser l'éthologie et le regard historique pour s'intéresser aux histoires individuelles des animaux. Et ce qui me semble important aujourd'hui d'importer dans le débat, c'est le point de vue des animaux. Quand on parle de travail animal, qu'est-ce que ça fait pour les animaux? Est-ce que nous avons besoin des animaux, mais est-ce que eux ont besoin de nous? Est-ce que la relation est véritablement réciproque?
Oui. Alors, vous parliez de la question de l'exploitation animale, donc en particulier dans les élevages intensifs. Jocelyne Porcher, on avait une manifestation aujourd'hui de plusieurs dizaines de professionnels du cirque qui ont manifesté à Paris, à quelques mètres du ministère de la Transition écologique, donc de chez Barbara Pompili, où ils espéraient être reçus pour contester l'interdiction progressive des animaux sauvages et des cirques dans les cirques itinérants. Donc, on voit bien que ça avance sur plusieurs points, à la fois dans ce référendum d'initiative partagée dont on parle depuis le début, mais également dans cette proposition de loi portée par d'anciens LREM à l'Assemblée nationale et qui va arriver jeudi devant l'Assemblée nationale. Il y a à la fois, on l'a dit, la question de l'interdiction de l'élevage du vison et de l'exécution des visons. Il y a également la question pour certains, de l'élevage en cage et de la chasse à courre. Et également, effectivement, cette question des animaux de cirque. Qu'est-ce que vous pensez de cela, justement, de cette particularité du rapport de l'homme à l'animal que de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques?
Déjà, avant de répondre à votre question, je vais reprendre ce que vient de dire Émilie Dardenne sur l'élevage intensif. Les chiffres qu'elle a donnés, par exemple, ne renvoient pas à l'élevage, ça renvoie à des productions animales. Donc, élevage intensif, c'est pour ça que je dis que ça ne veut rien dire. C'est que quand on est à 40 000 poules, c'est pas de l'élevage. Et je rappelle que, historiquement, ce terme d'intensification a été utilisé à la place d'industrialisation au moment de l'industrialisation de l'élevage. C'était une euphémisation de ce qui était en train de se passer à partir des années 60, qui était un processus d'industrialisation et non pas seulement d'intensification. Voilà, c'était un point de détail.
Sur la question des animaux sauvages dans les cirques ou dans les zoos, on apprend à l'instant même qu'un petit girafon vient de naître dans le zoo d'Amnéville en Lorraine, ou alors cette manifestation des professionnels du cirque itinérant devant le ministère de la Transition écologique.
Oui. OK, pour vous répondre, je vais faire un petit pas quand même de côté encore, parce que justement, c'est ce qu'on travaille à Animals Lab, c'est-à-dire à aller chercher le point de vue des animaux sur le travail. C'est ça qu'on fait, c'est qu'on va étudier les animaux au travail, on les observe, on les filme, on regarde ce qu'ils font, on regarde ce qu'ils expriment, donc on cherche à... Qu'est-ce que ça veut dire travailler pour un animal? C'est leur point de vue sur le travail, c'est exactement ça qu'on fait.
Ils font quoi comme métier, du coup? Excusez-moi.
On le fait aussi pour le cirque. C'est-à-dire que, effectivement, là, par exemple, on a écrit un papier dans une revue avec Charlène Drake, qui est artiste et chercheur, à propos des animaux de cirque et de ce qu'on peut faire avec les animaux de cirque. C'est la même problématique qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de détruire quelque chose comme le cirque et le monde circassien, qui est un monde avec une culture extraordinaire des rapports de travail aux animaux, mais de changer les conditions de travail des animaux. Oui, c'est pas bien que les animaux soient dans des petites cages transportées à droite à gauche, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est ça la question, c'est comment on peut changer notre vie avec les animaux, notre vie au travail, et conserver le lien, et conserver nos compétences et nos savoir-faire avec les animaux, conserver leurs compétences, parce que ces animaux, les animaux sauvages y compris, hein, les tigres, les lions, etc., ils sont nés dans le cirque, ils ont des relations le plus souvent très fortes avec les circassiens, et là en ce moment ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'euthanasie d'animaux sauvages, et on ne tient pas compte de la souffrance que ça cause aux personnes qui vivaient avec ces animaux, c'est absolument terrible.
Oui,
alors... Et donc, ce qu'il faut faire, voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre en compte la question. Je le redis, la question du travail. Aller voir qu'est-ce qu'on peut améliorer en prenant le point de vue des animaux, ce que nous on fait, et en point de vue le point de vue des gens, les circassiens. Mais comment ils voient le changement avec les animaux et non pas comme certains en remplaçant les animaux par des hologrammes. Il s'agit pas.
Camille Brunel, il vous répond.
On veut pas remplacer les animaux par des hologrammes. Les animalistes comme vous, Madame Porcher, aiment les animaux d'amour et veulent rester, garder une relation avec eux. En revanche, ce qui est très intéressant dans votre discours, c'est les adjectifs que vous employez. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi pour dire que les animaux ne devraient pas être dans des petites cages. Mais c'est petites qui comptent ici. C'est-à-dire que vous seriez d'accord pour les mettre dans des cages. Et quand vous parlez de l'objet de l'élevage, de la production, pardon, d'animaux, vous dites qu'on fait des animaux des objets industriels. Comme si le fait de faire des animaux des objets qui n'étaient pas industriels était finalement recommandable. Et c'est là qu'on diffère. Moi, les cages et les objets, je pense que c'est pas des choses qu'on devrait infliger à des gens qui sont des sujets, à des personnes. Et en fait, vous travaillez sur le point de vue des animaux, mais ce qui va apparaître en fait, c'est que les animaux, comme le dit Boris Cyrulnik, et j'adore cette formule, ont des mondes intérieurs. Et il n'y a pas besoin de les filmer pendant trois plombes, pendant qu'ils travaillent en train de se faire traire le pis, pour comprendre qu'ils ne sont pas heureux.
Que tout le travail de l'éthologie, ça n'a rien à voir avec cette question-là, parce que les éthologues, ils font ça depuis tout le temps.
Ah mais je salue les éthologues, j'en lis un en ce moment qui s'appelle Carl Safina, qui a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qui fait sourire les animaux ?» et qui démontre que la proximité émotionnelle entre les animaux et les humains est immense. Et donc il n'y a pas de mystère, et je ne comprends pas qu'en 2020, on en soit encore à se demander ce qui se passe dans la tête d'un cochon dans un élevage, et se demander comment on peut l'améliorer, alors qu'on sait déjà que la proximité cognitive entre les animaux et les humains est très grande, quoi.
Émilie Dardenne et puis Jocelyne Porcher sur cette même question. Émilie Dardenne.
Oui, je voulais revenir à l'argument de la culture et de la tradition, qui est un argument qui est souvent invoqué pour maintenir certaines pratiques. Et je voulais souligner le fait que c'est un argument qui est quand même limité du point de vue du raisonnement philosophique. C'est l'argument d'historicité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une chose est une tradition ou qu'une chose est culturelle, cette chose doit être maintenue. Mais une tradition, c'est pas quelque chose qui nous fournit une boussole morale, c'est pas quelque chose qui nous dit que c'est bien ou que c'est mal. Et cet argument, il implique qu'on ne prenne pas en compte le statut moral des animaux qu'on utilise pour les faire travailler dans le cirque ou ailleurs. Donc je pense qu'on manque fondamentalement le point de vue de l'animal quand on se place du point de vue de la tradition ou de la culture.
Jocelyne Porcher ?
Non, moi je parle pas du tout de tradition, hein. Je n'emploie jamais ce mot, c'est pas la tradition du tout qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de renouveler nos relations de travail avec les animaux, en prenant en compte tous les savoir-faire et les compétences des animaux et des gens qui travaillent avec eux, et en prenant en compte justement qu'il s'agisse de l'élevage, qu'il s'agisse du cirque, qu'il s'agisse de tous nos rapports de travail avec les animaux, il y a une culture derrière, il y a une co-culture, même une construction d'une co-culture avec les animaux, qui est une richesse incroyable. Et donc cette richesse,
juste pour vous interrompre, Jocelyne Porcher, est-ce que cette culture n'a pas déjà été détruite en grande partie par ce que vous appeliez l'industrialisation, c'est-à-dire les changements de rapport de l'homme à l'animal depuis, mettons, les années d'après Seconde Guerre mondiale et l'industrialisation de l'agriculture?
Et oui, tout à fait. Mais c'est bien ce, oui.
Donc il faudrait renouer avec une période d'avant, c'est ce que vous voulez dire?
Non, pas d'avant. Non. On est au 21e siècle, on n'est pas au 19e, on n'est pas au 18e, etc. Moi, je suis pas défendresse d'un âge d'or de l'élevage qui n'a jamais existé. L'élevage, c'est une dynamique des relations de travail aux animaux. On est au 21e siècle, on peut inventer avec les animaux et non pas sans eux d'autres façons de travailler. Il y a plein de gens qui le font. Il y a des éleveurs qui le font. Il y a des artistes qui le font. Je renvoie à tout ce qu'on peut faire avec les animaux. Dans les espaces du cirque ou des spectacles. Et tout ça, ben ça valorise les compétences des animaux, ça transforme nos relations aux animaux, parce que c'est ça qu'il faut faire. Moi, ce que je défends, c'est de continuer notre vie avec les animaux, en renouvelant nos façons d'être avec eux, qui correspondent à la sensibilité de nos concitoyens aujourd'hui, à ce qu'on sait des compétences des animaux aujourd'hui, pour réinventer autre chose avec les animaux, mais ne pas participer, ce qui est actuellement le cas, à un processus d'exclusion des animaux du travail, qu'on sort les animaux de la ferme, on les remplace par de la viande in vitro, on sort les animaux du cirque, on les remplace par des hologrammes, on sort les chiens de compagnie des appartements, on les remplace par des robots. Voilà, on est dans un processus d'exclusion des animaux du travail et de virtualisation. Et c'est ça qu'il faut.
Camille Brunel va vous répondre, ou en tout cas va pousser la réflexion dans votre sens.
Non, oui. Non, c'est très caricatural d'agiter l'épouvantail de la robotisation du monde et des animaux. Enfin, c'est hors de question. Personne, absolument personne, Madame Porcher, ne veut ça. Ce qui se passe, je suis curieux de voir ce qui va sortir des vidéos en fait que vous allez produire sur les animaux au travail. Ces vidéos, on les a déjà. Elles sont L214 inonde Internet de vidéos sur les animaux au travail dans un lieu de travail. Je suis pas sûr que vous avez l'intention d'aller filmer là-bas, qui est l'abattoir. En fait. Zoopolis, dont on n'a pas beaucoup parlé, de Donaldson et Kim Lika, qui est un essai de philosophie politique génial, où on essaie d'intégrer les animaux en tant que personnes au tissu de la société, évoque effectivement la possibilité de travailler avec des animaux et d'imaginer une relation égalitaire de travail avec les animaux. Mais une relation où l'animal est le seul à mourir à la fin, c'est pas une relation égalitaire. Et je dis pas qu'il faut que le paysan meure aussi, je dis qu'il faut qu'aucun des deux meure à la fin. Il faut que l'animal aussi reste en vie. Et là, d'accord. Et de toute façon, c'est une autre question que j'ai toujours rêvé de poser à Madame Porcher, mais pourquoi...
Elle va vous répondre, mais
pourquoi ne pas prôner le végétarisme, en fait, puisque du coup, dans le végétarisme, il faut avoir des élevages de vaches et de poules. Que je sache, par exemple, les cochons, les truies, on les exploite pas pour leurs œufs et leur lait. Donc on pourrait très bien dire aux gens arrêter de manger de la viande, les élevages de cochons disparaîtraient, on aura encore les poules et les vaches, et vous pourriez tout à fait signer le RIP qui interdit l'élevage en cage.
Oui, Jocelyne Porcher.
Je pense que c'est une évidence, mais apparemment ça l'est pas. C'est que pour qu'il y ait des végétariens, il faut qu'il y ait des mangeurs de viande. Quand on élève des vaches pour faire du lait, elles donnent naissance à un veau. Donc
c'est vrai.
Et c'est pareil pour les poules. Donc,
vous devriez soutenir les sanctuaires.
Qu'est-ce que c'est, les sanctuaires?
Les sanctuaires, c'est des endroits où les animaux vivent sans être tués à la fin. Et il y a un modèle économique à trouver derrière ça, en vendant le lisier ou
des
écoles. Mais il y en a plein, en fait. Et ils auraient besoin d'avoir le soutien de l'INRA, ces sanctuaires.
Jocelyne Porcher.
Non, je crois que c'est dommage que monsieur connaisse pas notre travail, parce que c'est exactement ce genre de choses sur quoi on travaille, sur la sortie des animaux du travail, sur la retraite, sur la reconversion.
Sur la libération animale.
Donc, il a pas du tout connaissance de notre travail, c'est bien triste.
Ah non, effectivement. Sur la libération animale, beaucoup. Je connaissais pas, non.
Non, libération animale, ça veut rien dire. Donc, moi, je travaille pour libérer les animaux de l'exploitation.
Bah, moi aussi.
Liée au travail.
Et moi aussi.
Mais pas me libérer moi des animaux. Moi,
mais
je
moi
veux pas
plus.
Me libérer des animaux. Je veux continuer à vivre avec eux, ainsi que la plupart des éleveurs et des gens qui travaillent avec les animaux.
Merci.
C'est ça qu'il faut défendre.
Merci à tous les trois. Après, merci à vous, Jocelyne Porcher, sociologue, zootechnicienne et directrice de recherche à l'INRAE, au laboratoire Animals Lab. Et vous avez publié beaucoup de livres sur ces questions, ainsi que de nombreuses tribunes. Camille Brunel, écrivain, journaliste et militant animaliste, vous avez publié Les Métamorphoses chez Alma, et Après nous, les animaux chez Casterman. Et merci beaucoup à Émilie Dardenne d'avoir été avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en anglais à l'université de Rennes 2. Vous êtes responsable d'un diplôme d'université animaux et société transdisciplinaire, où vous réfléchissez donc et vous faites des formations également auprès de personnes qui sont intéressées justement sur ce rapport homme et animal. Et vous êtes autrice de Introduction aux études animales en 2020 aux presses universitaires de France. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier et Imane Gilles. À la technique aujourd'hui, YouTube Diego Hac-Lopez, et à la réalisation, Alexandre Manzanares. Dans le temps du débat demain, nous nous inscrirons dans la journée spéciale de France Culture, ce que le Covid fait à la science, avec cette question: les médias ont-ils du mal avec la science, autour du traitement médiatique, en particulier de la pandémie de Covid. Dans 3 minutes, vous pourrez retrouver Arnaud Laporte pour Affaires Culturelles, ce soir en compagnie de l'auteur-compositeur Tricky Kouchinski. Vous écoutez France Culture. Il est très exactement 19h. Les titres de l'actualité vous sont présentés par Laura Dulieu. Bonsoir Laura.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous.